taxes et puis les grosses fortunes aussi.
Alors Jean Faniel, est-ce que c'est une caricature? Le gouvernement taxe seulement les plus petits, l'épargne les plus nantis, ou on peut quand même tirer cette conclusion de la réforme fiscale?
On a vu dans la réforme fiscale que le gouvernement essayait d'aller chercher des moyens à différents endroits. Et donc, en même temps, il faut bien voir que c'est un gouvernement, on l'a dit, qui est un gouvernement qui associe différents partis de droite ou de centre-droit. Et dès lors, on pouvait difficilement s'attendre à ce que, par exemple, il impose les grosses fortunes, comme l'a dit l'auditrice ici. Didier Reynders lui-même avait dit on ne va pas s'amuser à faire quelque chose dans ce gouvernement qu'on n'a pas accepté quand on avait un gouvernement avec les socialistes. Donc, c'est un élément qui est assez net. En même temps, le gouvernement Michel essaie d'aller chercher des moyens à différents endroits, même si on a vu évidemment qu'il reste encore des imprécisions ou des éléments où le gouvernement indique qu'il va aller chercher des recettes, notamment dans la fiscalité sur les revenus mobiliers. Mais en même temps, on ne sait pas encore exactement ce que ça va pouvoir rapporter concrètement. Donc là, il pourrait évidemment y avoir des déceptions du côté du gouvernement, en particulier dans ces éléments d'imposition, par exemple des revenus du capital.
Alors, on va écouter peut-être, Franceline, encore quelques réactions d'auditeurs avant de continuer.
Bonjour, Olivier de Rixensart. En dehors de quelques mesures pour donner l'impression à la population que les choses bougent, comme s'il fallait à tout prix donner cette impression de mouvement, je constate que l'action de ce gouvernement, à l'instar des précédents, consiste fondamentalement à l'accroissement de son propre pouvoir, exécutif donc, au détriment des deux autres pouvoirs fondamentaux, le pouvoir législatif et surtout le pouvoir judiciaire, qui s'appauvrit de plus en plus.
Bonjour, Miguel de Namur. Je pense que le bilan de ce gouvernement, aujourd'hui, on peut dire qu'il est mitigé. Donc, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui a quand même fait une différence par rapport aux autres, c'est qu'il a pris des décisions qui étaient difficiles à prendre, notamment des décisions impopulaires qui, finalement, ont été prises alors que la popularité de ce gouvernement pouvait chuter à cause de ça. Comme l'âge de la pension qui est reporté à 67 ans. Cela devait être fait, ça a été fait. Je trouve que c'est une avancée qui peut paraître négative pour la population, mais qui sera positive pour l'économie du pays. Et tout est discuté dans le sens où ce gouvernement veut absolument aboutir et assainir les finances publiques.
Voilà, des recettes d'austérité dont vous nous avez dit qu'elles ne datent pas du gouvernement Michel tout à l'heure, hein, à 7h40 on en a parlé. Beaucoup d'internautes et d'auditeurs reconnaissent au gouvernement Michel un certain courage politique, il prend des décisions. Sur ce virage fiscal qui est sans doute l'une des réformes les plus emblématiques qui restera du gouvernement Michel, ce tax shift, est-ce que vous trouvez qu'il répond aux attentes, parce qu'il était déjà évoqué dans l'accord de gouvernement, est-ce que c'est un tax shift qui va suffisamment loin ou vous le trouvez un peu au rabais?
Disons que c'est un tax shift qui était annoncé dans l'accord de gouvernement, mais avec relativement peu de précision, à certaines exceptions près, notamment la diminution des cotisations de sécurité sociale patronale de 33 à 25%, ça figurait déjà dans l'accord de gouvernement. Donc il y a une part de créativité dans cet accord, c'est clair. En même temps, on ne savait pas exactement quelle physionomie allait prendre ce virage fiscal. Et donc, on a évidemment assisté à des réactions qui vont en sens divers. Du côté patronal, on est plutôt satisfait, même si on laisse entendre que ça ne va pas nécessairement assez loin pour certains secteurs, alors que, évidemment, du côté syndical, par exemple, on pointe que c'est un accord qui favorise les employeurs, mais sans vraiment mettre de pression sur leurs épaules, notamment sans les contraindre ou les inciter fortement à engager en utilisant cette réduction de cotisation de sécurité sociale. Alors, il y a peut-être un élément pour revenir aux interventions des auditeurs qu'on vient d'entendre, qui est assez frappant, je pense, c'est que d'un côté, on a ces réductions de cotisations de sécurité sociale qui vont donc réduire les moyens de la sécurité sociale, d'une part, et d'autre part, le gouvernement indique qu'il va y avoir un problème en matière de pension et que dès lors, il faut relever l'âge d'accès à la retraite. Mmh. Et donc, on peut se dire que peut-être qu'il y a une certaine incohérence à dire qu'il va falloir réformer les pensions pour qu'elles restent soutenables, dans le même temps, réduire les capacités financières de la sécurité sociale. On est donc là sur peut-être quelque chose qui pourrait apparaître contradictoire et peut-être contrairement à ce que disait l'auditeur, on n'est pas sûr, c'est le commissaire du bureau du plan fédéral qui le disait, on n'est pas sûr que cette réforme des pensions suffira à soutenir le paiement des pensions. Et donc c'est sans doute aussi à mettre en rapport avec la réduction des cotisations de sécurité sociale, comme je le disais. Alors si on revient sur la question de la continuité de ce gouvernement par rapport au précédent...
Et par rapport à la rigueur budgétaire.
Et par rapport notamment à la rigueur budgétaire, il faut se dire que ce n'est pas seulement une continuité par rapport au gouvernement précédent, c'est aussi, et en cela, le saut d'index ou le relèvement de l'âge de la pension sont également des éléments qui coïncident avec finalement ce que, au niveau de l'Union européenne, ce qui est devenu le cadre dans lequel les différents États se sont engagés. Finalement, on l'a vu il y a à peine une dizaine de jours avec ce qu'on a appelé le Greekment, donc l'accord sur la Grèce. Là aussi, il y a des éléments qui vont dans le même sens, c'est-à-dire réduction du déficit pour atteindre soit un équilibre budgétaire, soit dégager un surplus budgétaire pour pouvoir faire face à l'augmentation de la dette publique. Mmh. Il faut se rappeler qu'en Belgique, elle est montée à peu près de 87 à 111% depuis 2008. Et puis, on est aussi face à une situation où, par exemple, on voit le report de l'âge de la pension en Grèce, en Belgique ou dans d'autres pays. Donc évidemment, il faut insérer ça aussi dans un cadre européen.
Et pour les choix qui sont faits par ce gouvernement, il faut donc diminuer la dette, vous l'avez vu, avoir des rentrées financières. Certains critiquent des domaines que l'on n'a pas encore taxés. Un auditeur disait que les voitures de société ont toujours une fiscalité qui est avantageuse, par exemple. En termes environnementaux, ça n'était visiblement pas la priorité de cette coalition d'aller dans une politique plus restrictive, on va dire, plus pénalisante pour améliorer la situation environnementale ?
Non, effectivement, ça ne fait pas partie des priorités de ce gouvernement, visiblement. On sait que sur les questions environnementales, le gouvernement a avancé dans des choix qui sont très très contestés, et en particulier par les partis écologistes flamands et francophones. C'est notamment la relance de l'activité nucléaire ou la prolongation des plus anciennes centrales qui atteignent maintenant 40 ans. Donc là, il est clair que ce n'est pas un parti qui se profile en termes d'écologie, un gouvernement qui se profile en matière d'écologie, mais les partis qui le composent ne sont pas non plus des partis qui se sont profilés sur les questions écologiques de manière forte. Puisque, au contraire, c'est plutôt la promotion, par exemple, du nucléaire qui a été mise en avant.
Alors, on écoute encore une auditrice.
Bonjour, Jean-Claude Douteb. Je ne comprends pas qu'un parti, le maire en l'occurrence, puisse faire exactement le contraire de ce qu'il avait annoncé dans son programme et ne pas être sanctionné selon les sondages par ses électeurs. Voilà, merci.
C'est un auditeur en l'occurrence. Le PS, dans sa communication, a beaucoup mis en avant les contradictions du MR, lui reprochant d'abord d'avoir mangé sa parole en s'associant à la NVA ou tout dernièrement d'être revenu sur sa décision de baisser la TVA sur l'électricité. Est-ce que pour autant on peut en conclure que le MR ne tient pas les engagements qu'il a pris lors de sa campagne ?
Ça dépend de quels engagements on parle. Par exemple, réduire les cotisations de sécurité sociale patronale, c'est le type d'engagement que les libéraux francophones ou flamands d'ailleurs prennent depuis pas mal de temps. Donc on doit voir évidemment à quelle aune on mesure ces engagements. Je dirais ce qui est intéressant en termes d'analyse du système politique belge avec cette configuration, c'est qu'on a un gouvernement fédéral et un gouvernement wallon ou de la communauté française qui n'ont aucun parti en commun. Le MR est au pouvoir au fédéral, pas dans les entités fédérées. Pour le PS et le CDH, c'est l'inverse. Et ce qui a vraiment marqué un tournant maintenant il y a un an, quand le gouvernement flamand d'abord a été formé, ce qui a ouvert ensuite la voie à la formation du gouvernement fédéral avec la composition que l'on connaît, qui comporte trois partis flamands et un seul parti francophone qui est assez minoritaire finalement dans sa communauté, c'est qu'on est vraiment dans une logique majoritaire, c'est-à-dire que
avec un clivage net,
il y a un clivage nord-sud et c'est clairement la majorité qui a
merci,
pris.
Merci Jean Fagnel, on arrive à la fin.
On va en rester là,
on a effectivement que les rapports étaient très clivés et qu'on a aussi une lecture assez claire gauche-droite.
Merci d'avoir répondu Jean Fagnel aux réactions de nos auditeurs. Podcast.